Le public connaît l'expédition Miskatonic par les fréquents communiqués radio que nous avons envoyés à l'Arkham Advertiser et aux agences de presse, puis par les articles ultérieurs signés par Peabody et moi-même. Notre équipe se composait de 4 membres de l'université. Peabody, Lake du département de biologie, Atwood du département de physique, également météorologue, et moi-même représentant le département de géologie et assurant la direction des opérations. En outre, 16 assistants nous accompagnaient, 7 étudiants de Miskatonic et 9 mécaniciens experts. Sur ces 16 personnes, 12 étaient capables de piloter un avion et 10 étaient des opérateurs radio compétents. 8 savaient naviguer à la boussole et au sextant, tout comme Peabody, Atwood et moi. De plus, nos 2 bateaux, des baleinières reconverties, renforcées pour supporter le climat et dotées de moteurs à vapeur auxiliaires, avaient leur propre équipage. La fondation Nathaniel Derby Pickman s'était chargée de financer l'expédition, aidée par quelques contributions privées, ce qui fait que, malgré le manque de publicité, les préparatifs avaient été extrêmement méticuleux. Les chiens, traîneaux, machines, matériaux et les pièces de nos avions prêtes à être assemblées étaient arrivés à Boston où nous avons pu charger nos bateaux. Nous étions exceptionnellement bien équipés pour notre but scientifique. Pour tout ce qui concernait les fournitures, l'alimentation, le transport et la construction des camps, nous avions profité de l'excellent exemple donné par nos récents prédécesseurs si talentueux. C'est le nombre et le prestige hors du commun de ces mêmes prédécesseurs qui ont fait que, aussi ambitieuse soit-elle, notre expédition a été si peu remarquée par le grand public. Comme l'ont rapporté les journaux, nous avons quitté le port de Boston le 2 septembre 1930. Longeant la côte à allure réduite, nous avons traversé le canal de Panama et fait escale à Samoa et à Hobart, Tasmanie, où nous avons embarqué le reste de nos fournitures. Aucun d'entre nous n'était encore allé au pôle. Si bien que nous comptions sur nos capitaines, J.B. Douglas, commandant le brick Arkham ainsi que les équipages, et Georg Thorfinnsen, capitaine du trois-mâts Miskatonic, tous vétérans de la chasse à la baleine dans les eaux antarctiques. Alors que nous laissions derrière nous le monde habité, le soleil ne cessait de décliner au nord et restait de plus en plus longtemps au-dessus de l'horizon. À environ 62 degrés de latitude sud, nous avons aperçu nos premiers icebergs, des blocs tabulaires aux flancs verticaux, et juste avant d'aborder le cercle antarctique, dont le franchissement le 20 octobre fut l'occasion d'une cérémonie pittoresque, nous avons été considérablement gênés dans notre progression par les champs de glace. Après tout ce temps sous les tropiques, la chute des températures me causait une gêne incontestable, mais je décidai d'ignorer mon inconfort, sachant que les pires rigueurs restaient à venir. En bien des occasions, les curieux effets atmosphériques que nous rencontrions m'enchantaient. Parmi ceux-ci, un mirage particulièrement détaillé, le premier que j'ai jamais vu, où des congères lointaines devenaient les remparts d'inimaginables châteaux cosmiques. Naviguant à travers une banquise qui n'était heureusement ni trop étendue ni trop épaisse, nous avons retrouvé une mer dégagée à 67 degrés de latitude sud et 175 de latitude est. Le matin du 26 octobre, une grande lueur est apparue à l'horizon et, avant midi, nous avons contemplé, non sans enthousiasme, une vaste chaîne de montagnes couronnée de neige qui emplissait notre champ de vision. Nous avions enfin rencontré un avant-poste de ce grand continent inconnu avec ses mondes cryptiques de mort glacée. Ces sommets étaient certainement la chaîne de l'amirauté découverte par Ross, et il nous restait à contourner le cap Adar et continuer vers la côte est du Victoria jusqu'à notre base prévue sur le rivage du détroit de McMurdo au pied du volcan Erebus à 77,9 degrés de latitude sud. La dernière étape de notre voyage excita vivement notre imagination. D'immenses pics pleins de mystères s'élevant constamment à l'ouest, alors que le soleil pâle et bas de midi ou celui de minuit plus bas encore au point de caresser l'horizon jetait ses rayons brumeux et rougeâtres sur la neige blanche, l'eau bleutée et des pans dénudés de granit noir. Ces sommets désolés étaient balayés par des rafales furieuses du terrible vent antarctique. Leur cadence évoquait parfois des notes musicales échevelées, quasi consciente, couvrant un vaste spectre musical et qui, en vertu de quelque association d'idées inconscientes, me semblait inquiétante et même vaguement terrifiante. Cette vision me rappelait les peintures asiatiques angoissantes de Nicolas Roerich et les descriptions plus effrayantes encore du tristement célèbre plateau de Leng, telles qu'elles sont retranscrites dans le redoutable Necronomicon de l'arabe dément Abdullah Lazred. Plus tard, je devais regretter d'avoir un jour jeté les yeux sur ce livre monstrueux à la bibliothèque de l'université. Le 7 novembre, ayant perdu momentanément de vue les chaînes de l'Ouest, nous sommes passés devant Franklin Island. Le lendemain, nous pouvions distinguer les sommets des monts Erebus et Terror dominant l'île de Ross et au-delà, la longue silhouette des monts Paris. Là, à l'est, s'étendait la ligne basse et blanche de la grande barrière de glace, s'élevant à la verticale sur une hauteur de 50 mètres, telles les falaises rocheuses du Vieux-Québec, et marquant la fin de notre navigation vers le sud. Dans l'après-midi, nous sommes entrés dans le détroit de McMurdo pour nous écarter de la côte sous le vent du mont Erebus. Cette masse fumante, couverte de scories, s'élevait à plus de 200 mètres vers le ciel, telle une estampe japonaise représentant le mont Fujiyama. Plus loin se dressait le mont Terror, blanc et spectral, de plus de 3000 mètres d'altitude, un ancien volcan aujourd'hui éteint.